7 chats sur l'élevage pour se prémunir des rongeurs et des oiseaux. Et ça, ça marche vraiment très très bien. Depuis qu'on les a, on n'a plus de soucis. Il arrive fréquemment l'été qu'on trouve un rat mort en fait dans les parcs qui a été attaqué par les chats. On l'enlève et puis voilà, on n'en parle plus. Donc la prédation par les rongeurs, elle est très très faible depuis qu'on a les chats.
Aimez-vous les escargots ? Dans le village d'Hénin-sur-Cogolle, près d'Arras, une jeune femme gère un élevage d'escargots en agriculture biologique depuis 5 ans. C'est Myriam Grouzel qui a créé la Maison du Nombre d'Or où elle vend ses escargots et des produits dérivés. Avec les jeunes de l'IME, l'Institut médico-éducatif d'Arras, nous sommes allés à la rencontre de cette éleveuse d'escargots pour en savoir plus sur son métier et son activité.
J'ai toujours aimé élever des escargots depuis que je suis petite. J'en élevais déjà chez mes grands-parents quand j'étais enfant. Et puis après, j'ai fait des études dans l'agriculture et la passion a continué. Donc j'en ai fait un métier.
Comment avez-vous appris ?
Alors j'ai appris à élever de l'escargot un peu comme ça, on va dire, un peu toute seule. Je suis retournée à l'école un petit peu, mais vraiment pas très très longtemps. Un lycée agricole spécialisé dans le sud-est de la France, à La Motte-Servolex plus précisément, qui apprend les rudiments pour élever de l'escargot. Donc c'est vraiment des formations très très courtes. Et après, ben, je vais dire que j'apprends encore tous les ans et petit à petit, c'est pas un élevage comme d'autres élevages de vaches, de moutons ou d'autres animaux où il y a beaucoup de recul et il y a beaucoup de connaissances. Donc en fait, on se débrouille un petit peu comme on peut quand on est éleveur d'escargots.
Vous avez combien d'escargots ?
Alors selon les années, ici, j'ai entre 100 et 150 000 escargots.
Quelle race d'escargots avez-vous ? Y en a-t-il plusieurs ?
Alors non, il n'y a qu'une race d'escargots. Il y en a une deuxième qu'on a à titre expérimental. Alors ça veut dire qu'on n'en a vraiment pas beaucoup et qu'on ne les vend pas, qui est le blond des Flandres. Mais sinon, l'escargot qu'on élève et qu'on vend pour manger, c'est de l'escargot gros gris.
Pourquoi avez-vous la deuxième race ? Alors c'est pour le plaisir ou
c'est pour le plaisir d'essayer de les élever parce que c'est des escargots un peu atypiques. Ils sont plus gros, plus dorés, plus jolis. Et voilà, c'était pour essayer de les élever. Voilà.
Dans la nature, à quoi sert cette bave des escargots produit ?
Alors, tu veux savoir à quoi on l'utilise ? Pourquoi on l'utilise ? Alors, la bave d'escargot, moi, je ne l'utilise pas, j'en fais rien, parce que j'élève les escargots uniquement pour manger. Par contre, il y a d'autres éleveurs qui utilisent cette bave-là pour faire des produits cosmétiques, donc des crèmes pour se mettre sur la peau, puisque la bave d'escargot, ça a des propriétés cicatrisantes et réparatrices pour la peau.
Alors, parce que quand on a parlé de bave aussi, on se disait que l'escargot, quand il se déplace, on a tous conscience qu'il y a quelque chose derrière. Mais finalement, ça sert à quoi ? C'est pour l'humidité dans la nature. Ouais, c'était un peu vraiment cette idée-là de comprendre l'anatomie de l'escargot finalement.
Ouais. Alors, la bave pour l'escargot, ça a deux utilités. Il y a une bave qui est en fait une bave de déplacement. Donc quand ça va servir à l'escargot à glisser et à se déplacer. Quand le support est sec, l'escargot ne peut pas se déplacer. Donc il sécrète de la bave pour glisser. Et après, il y a une autre bave qu'il va produire, dont il va se servir pour enrouler ses œufs lorsqu'il va les pondre sous la terre. Il va pondre ses œufs, il va sécréter de la bave. Et cette bave-là, qu'on appelle la bave de ponte, elle est riche en fait en éléments nutritifs pour les bébés escargots qui vont naître.
Quel est le cycle de vie d'un escargot ?
Alors, l'escargot, ici en tout cas, dans l'élevage, puisque dans la nature ça vit plus longtemps que ça, ici l'escargot il va naître au printemps, en février-mars. Ensuite, on va les mettre donc dehors, ici, là, dans les prairies. Alors d'abord, on va les mettre sous les grandes serres qu'on voit. On va mettre les côtés hein, des serres, on va bâcher complètement les serres. On va les mettre dehors sous serre pour qu'ils puissent commencer à grandir à l'abri de la gelée. Et ensuite, quand les gelées seront terminées, à peu près mi-mai, on va enlever les côtés des serres et les escargots vont aller se répartir dans les prairies. Donc ils vont vivre dans la végétation jusqu'au mois de septembre. Et en septembre, on va les ramasser pour les cuisiner. Ils vivent à peu près 5 mois dehors.
Les escargots sont-ils tous herbophobies?
Hermaphrodite.
Oui, pardon. Oui, tous les escargots sont hermaphrodites, oui. C'est-à-dire qu'ils sont mâles et femelles en même temps.
Ouais, mais s'ils voient un mâle, ils se construisent en femelle, du coup.
Ils sont forcément les deux. Ils sont mâles et femelles. Donc quand un escargot voit un autre escargot, eh bien, il voit un mâle et une femelle. Ils sont les deux. Au début, ils vont se reproduire tous les deux en tant qu'escargot mâle, c'est-à-dire qu'ils vont s'échanger leur spermatozoïde. Premier escargot donne au deuxième et le deuxième, il donne au premier. Ensuite, ils se séparent. Une fois qu'ils sont tout seuls, à l'intérieur de leur corps, il va y avoir, sous l'action, on va dire, de certaines hormones, des transformations dans leur corps. Ils vont devenir un peu plus femelles et ils vont, du coup, se servir des spermatozoïdes qu'ils ont récupérés chez l'autre pour s'auto-féconder. C'est assez complexe, la mécanique de reproduction de l'escargot. Et ils vont décider quand est-ce qu'ils vont s'auto-féconder. Par exemple, admettons, là, ils ont récupéré des spermatozoïdes d'un escargot et la météo n'est pas favorable. Donc, ils ne vont rien en faire. Et au moment où ils vont trouver que la météo est favorable, ils vont déclencher cette auto-fécondation. Enfin, c'est pas auto-fécondation, c'est pas le mot, mais... Bref, ils vont déclencher ce processus-là. Ils vont se féconder avec les spermatozoïdes du voisin. Et comme ça, ils vont pondre, en fait, quand eux, ils auront décidé que les conditions sont bonnes.
Comment les petits naissent? Est-ce que c'est des œufs ou des tout petits escargots?
Alors, quand le parent escargot va pondre, il va pondre des œufs. Donc en premier, un escargot, il va pondre des œufs dans la terre, à quelques centimètres de profondeur. Voilà, il creuse un trou, il dépose des escargots dans la terre. Et ensuite, à peu près 3 semaines après, il y a des petits escargots qui vont sortir des œufs et qui vont sortir de la terre. Donc vous allez voir peut-être des petits escargots sortir.
Et ça fait combien de millimètres? Enfin, c'est vraiment...
Ça fait un peu comme une petite lentille. C'est vraiment tout petit. Donc nous, on en lâche ici 100, 200 000, c'est 100, 200 000 lentilles. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, quoi. Tout petit. Ouais.
Faut pas marcher dessus.
Non, bah après, une fois qu'on les a lâchés, en général, on rentre plus dans les parcs jusqu'à temps que... Pendant 3-4 semaines, je rentre plus dans les parcs. Et j'attends de les voir et qu'ils aient la taille d'un petit pois pour sortir. Voilà. Mais après, je marche plus dans l'herbe. Après, quand les escargots sont sortis, on marche dans les allées et c'est tout.
Dans les allées, là?
Voilà. Ouais. Les allées, ouais. Et puis bon, voilà, on les voit pas bien parce que c'est un peu cracra, mais il y a des allées au milieu, là. Et on marche sur ces allées-là et c'est tout. Enfin, moi... Et c'est tout. Quand on fait les visites, on reste à l'extérieur parce que c'est très fragile.
Il y a trop
chaud. Ouais, et puis il suffit juste en fait qu'on pose le bout du pied sur le filet vert. Au début, j'ai beaucoup de gens qui faisaient ça, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de rentrer dedans. En fait, les escargots, dans la journée, ils vont se foutre au pied du filet. Donc en fait, on les écrase. Donc ça va très très vite à les écraser. Ouais.
Combien un escargot peut-il pondre de...
Alors, un escargot, ça pond environ entre 80 et 100 œufs, mais il y en a beaucoup qui vont mourir avant d'arriver à l'âge adulte. Une grosse pluie, on a au mois de mars-avril, quand on a les grosses pluies printanières, là, ou un coup de grêle, n'importe quoi en fait, un coup de chaud, un coup de trop froid, un coup de... Voilà, plein de choses.
Les escargots mettent combien de temps pour devenir un adulte?
Dans l'élevage, ici, ils mettent à peu près 4 à 5 mois. Voilà, dans la nature, c'est beaucoup plus long, parce que nous, on leur donne à manger.
Combien de temps vit un escargot dans la nature?
Dans la nature, il vit jusqu'à temps qu'il se fasse manger par quelque chose, ou écrasé par quelqu'un, mais ça dépend, il peut vivre 4, 5 ans, il peut vivre longtemps un escargot. Si... On va dire que la limite pour un escargot, qui est un animal qui n'a aucune défense, ça va être jusque quand il survit sans se faire bouffer. Voilà.
Aujourd'hui, rencontre avec Myriam Grouzel, éleveuse d'escargots bio à Hénin-sur-Cogeul, près d'Arras. Elle répond aux questions des jeunes de l'IME Jean Jaurès d'Arras.
Qu'est-ce que mangent les escargots? De la salade?
Alors, vous pouvez leur donner de la salade, mais nous, ici, on en a beaucoup trop pour leur donner de la salade. Et puis, surtout, ça ne les fait pas grandir assez vite. Donc, ici, on leur donne des céréales qu'on a broyées en farine. Ça fait comme de la farine pour faire des gâteaux, c'est la même chose. Et en fait, ce sont des céréales et des minéraux qui vont leur permettre de construire leur coquille.
Ils ont des dents ?
Oui. Ils ont des milliers de dents en corne. C'est de la corne, en fait, c'est des petits pics en corne. Et ils vont s'en servir pour manger des céréales.
Y a-t-il des prédateurs d'escargots ?
Oui, il y a beaucoup de prédateurs d'escargots. Déjà, vous avez toute la famille des rongeurs, donc absolument tous les rongeurs. Et puis ensuite, tout ce qui va être les oiseaux, enfin, certains oiseaux sont prédateurs des escargots. Et après, vous avez des choses beaucoup plus vicieuses parce qu'on ne les voit pas. Ça va être des petits insectes qui viennent les piquer et qui les tuent. Et des petites bactéries aussi qui peuvent rentrer dans leur corps et les rendre malades. Et bon, un escargot qui est malade, c'est un escargot qui meurt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de vétérinaire pour escargot. Il nous est déjà arrivé d'avoir des bactéries ou des choses comme ça, notamment l'année où il y a eu la canicule, avec la chaleur en fait. Et voilà, ça diffuse aussi des maladies. Et dans ces cas-là, on voit les escargots mourir les uns après les autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter les maladies et qu'on en a très peu au mètre carré ici. C'est une autre chose qu'on peut faire, avoir beaucoup de végétation et avoir peu d'escargots au mètre carré. Parce qu'on ne peut rien faire. Quand ils sont attaqués, prier que ça s'arrête. Ouais. C'est tout.
Des chats, là.
Ouais, alors on a 7 chats sur l'élevage pour se prémunir des rongeurs et des oiseaux. Et ça marche vraiment très très bien. Depuis qu'on les a, on n'a plus de soucis. Il arrive fréquemment l'été qu'on trouve un rat mort en fait, dans les parcs qui a été attaqué par les chats. On l'enlève et puis voilà, on n'en parle plus. Donc la prédation par les rongeurs, elle est très très faible depuis qu'on a les chats.
Les hérissons mangent aussi les escargots ?
Oui. Oui, oui. Alors les hérissons, c'est le seul qui nous pose pas trop de soucis parce qu'en fait, un hérisson, c'est pas très agile et ils arrivent pas à passer par-dessus nos filets à escargots. Enfin, ils arrivent pas à traverser toutes les barrières. Par contre, toutes les autres, les rats, etc., il y a aucun problème, quoi. Ça passe partout, 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 partout. Voilà. On s'en est rendu compte la première année d'élevage où on a perdu quasiment tout à cause des musaraignes, donc c'est un tout, tout, tout petit rongeur. Et donc suite à ça, on a mis les chats et depuis, on n'a plus de soucis.
Voilà. Même les chats. Ils passent.
Ouais, alors les chats, eux, c'est pour ça en fait qu'on a mis cette clôture électrique. C'est parce que comme ça, on a en fait les chats qui sont à l'intérieur du parc escargot. Ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas aller partout. Et ils ont la cabane grise en fait dans laquelle je stocke du matériel, mais aussi des couvertures chauffantes par exemple l'hiver. On leur a mis des tipis chauffants, enfin voilà.
D'accord.
Et en fait, ils logent là toute l'année. Ils sortent jamais d'ici. Et c'est l'objectif de ces clôtures là en fait. Voilà,
d'accord.
C'est de garder les chats ici. Bon, alors après, là, on a eu quelques malades cet hiver. On a eu une épidémie dans les chats cet hiver. Donc, on les a quand même mis dans un autre bâtiment, chauffé à 19. Enfin, voilà. Mais sinon, ils vivent là toute l'année et ils sont super bien, quoi. Là, par ce temps-là, bon, là, ils y sont pas parce que c'est pareil, on est beaucoup et ça fait quelques mois qu'ils voient plus grand monde. Mais l'après-midi, ils sortent, ils se mettent sur les tôles du bâtiment en haut et ils se dorment au soleil. Ouais, ils sont bien, franchement.
Ah bah c'est sûr que c'est les sentinelles, hein. Il faut en prendre soin.
Ça. Ouais. Voilà, ouais. Bah c'est tout des rescapés. Hein. La petite qu'on a là, c'est notre petite mascotte, Paola. Elle a que 3 pattes. Elle s'est fait croquer quand elle était bébé. Et nous, on l'a récupérée dans cet état-là. Donc voilà, on en a un sourd, mais qui chasse néanmoins. C'est exceptionnel. Un magnifique chat qu'on verra pas parce qu'il est d'une extrême timidité à cause de sa surdité. Il y a un très beau chat angora roux et blanc qui est sourd et qui chasse. Et après, on a les rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui sont valides et qui chassent tous très très bien.
Vous avez combien de chats, du coup ?
On en a 7. Donc on en a 5 ici et on en a 2 là-haut à la ferme, plus au niveau des réserves de grains, on va dire. Et puis, qui servent aussi beaucoup à tenir compagnie au canapé. Ils servent pas à grand-chose, ceux-là.
On se fait la carbolade. Allez, va chercher le fardeau de Sarmac. Yeah. Lève les cèpes, hein. Les cèpes de vigne, comme. Qu'il est dur de sortir de sa coquille, changer de milieu pour quitter sa famille, abandonner ses amis pour monter à Paris. Rejoindre la capitale, il faut que je m'installe. Comme l'escargot, je porte la coquille sur mon dos. Comme l'escargot, je sors de ma coque dès qu'il tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, je traîne la patte dès qu'il fait beau. Comme l'escargot, oh. À Panama, c'est chouette pour l'escargot. Il pleut toujours, il tombe des trombes d'eau. Y a pas de jeûne ni de salade dans le métro. À la
la terrasse d'un café, mets de l'anis dans ton verre d'eau. Comme l'escargot, je porte la coquille sur mon dos. Comme l'escargot, je sors de ma coque dès qu'il tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, je traîne la patte dès qu'il fait beau. Comme l'escargot, oh, oh, comme l'escargot. Son fenouil, ses oliviers, les traces de sa jeunesse, ses tout premiers baisers, les feux de camp sur la plage au bord de la Méditerranée, où l'on faisait les sauvages et qu'est-ce qu'on pouvait s'en piffer. Comme escargot à la sauce catalane ou grillé pour les PO, comme l'escargot défiant la tramontane, le Mistral et le Niño, comme l'escargot du Ricard, de l'absinthe, du pastis, du Pernod, comme l'escargot au pied déjeuner, je me fume des bédos, comme l'escargot. Je porte la coquille sur mon dos. Comme l'escargot, je traîne la patte dès qu'il fait beau. Comme l'escargot, je sors de ma coque dès qu'il tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, oh. Il faut les faire griller pour les savourer. Gratter, saler, poivrer, griller, déguster. Il faut les faire griller pour les savourer. Gratter, saler, poivrer, griller, déguster.
C'était Cana avec le titre L'escargot.
Reportage.
Aujourd'hui, rencontre avec Myriam Grouzel, une éleveuse d'escargots bio d'Hénin sur Cogel, près d'Arras. Elle répond aux questions des jeunes de l'IME, l'Institut médico-éducatif Jean Jaurès d'Arras.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
C'est la cinquième année, là. C'est la cinquième production d'escargots qu'on va faire. Donc voilà, les années passent petit à petit.
Travaillez-vous toute l'année ? Y a-t-il des saisons plus rythmées que d'autres ?
Oui, alors en escargot, on a chaque saison à son activité, on va dire. Là, en ce moment, janvier, février, mars, on fait de l'entretien dehors. Donc on range, on nettoie, on prépare pour la prochaine saison. Après, en avril, on va mettre les escargots dehors. Donc là, du coup, après, c'est encore un autre métier, puisque tous les jours, on surveille, on donne à manger, on désherbe aussi autour des parcs pour que tout reste propre. Voilà, et puis après vient la période la plus chargée, qui est la période en fait de septembre à Noël, puisque là, on ramasse les escargots, on les cuisine et on les vend à la ferme et sur les marchés. Donc c'est là une période qui est très difficile et où on travaille beaucoup jusque à peu près à Nouvel An, puisqu'on va après jusqu'à faire des repas pour les cérémonies de vœux. Donc on doit être prêt pour Noël, pour Nouvel An et pour les cérémonies de vœux après. Voilà, donc ça fait 4 mois très intenses, ouais.
Que faites-vous en hiver ?
Eh ben voilà, c'est l'hiver. L'hiver, on fait tout, quasiment toutes les activités en même temps, donc ramasser, cuisiner et vendre les escargots.
Quand peut-on consommer un escargot ? Dans quelle partie de sa vie un escargot est-il consommable ?
Quand on est éleveur, en fait, on va les ramasser au stade où ils sont matures sexuellement, donc en fait où ils ne vont pas grandir davantage. Donc on estime après à peu près 4 à 5 mois de croissance. Un escargot est mature et il peut être ramassé pour être mangé.
Travaillez-vous toutes les semaines ?
Oui. Oui, chaque année. On s'accorde une semaine au mois de janvier. Et on essaye depuis 2 ans de prendre 10 jours l'été. en famille. Et voilà, c'est tout. Sinon, on travaille tout le temps.
Ouais, parce que l'été, c'est la grosse fin.
Ouais, l'été, c'est la période d'engraissement des escargots. Donc, c'est là où il ne faut pas se louper. Après, on a ma maman qui maintenant, elle habite pas ici sur place, mais elle commence à prendre l'œil. Et puis, il y a quand même une période d'engraissement, on va dire, qu'à part donner à manger, puis vérifier qu'ils ne se barrent pas, que les clôtures électriques fonctionnent bien et tout. C'est tout, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, en fait, c'est déjà beaucoup, mais ça peut être délégué. Donc en fait, ma maman maintenant vient une semaine tous les étés habiter ici. Puisque comme on n'a pas que les escargots, quand on vient, il faut aussi s'occuper des chevaux, de tout le monde en fait. Il y a des soins à faire 3 fois par jour, quand il n'y a pas de malade. Parce que quand il y a des animaux de malade, c'est plus que ça. Et donc ma maman vient habiter ici, ce qui nous permet de partir en fait une semaine, de souffler un peu. Mais sinon, il faut y être tout le temps. En plus, bon là on ne voit pas parce que les systèmes sont rangés, mais il y a de la micro-irrigation. Donc c'est des petites perches qui sont en l'air et qui envoient de la brume tous les soirs. Et il y en a toujours un truc qui se bouche ou qui ne marche pas. Donc il faut y être en fait. Il faut y être tout le temps, il faut surveiller.
Oui, surtout voilà. L'été, pas de brume, pas d'humidité.
Ouais. Et dans ces cas-là, ils ne sortent pas manger. Donc on est obligé de les brumiser tous les soirs pour qu'ils sortent manger.
L'élevage d'escargots demande beaucoup d'investissement, même la nuit, comme l'explique Myriam Grouzel, éleveuse d'escargots bio à Hénin-sur-Cogel, près d'Arras.
Est-ce que la nuit, vous venez quand même vérifier les escargots ?
Une excellente question. Oui, ouais. On vient régulièrement la nuit, donc l'été, ça va être juin, juillet, août. Surtout juillet, août, quand on arrive à la fin de la période où ils grandissent et quand ils sont presque prêts, on vient et on vérifie surtout, c'est que les clôtures électriques, donc vous voyez la verte, on voit des filets verts avec une bande en haut blanche. Et en fait, surtout, c'est ça en fait, qui les empêche de partir et on vient vérifier que l'électricité fonctionne bien. Et l'année dernière, je me souviens d'un jour mémorable, une semaine avant la récolte, où ils se sont barrés. Et en fait, je suis arrivée un dimanche matin, je suis descendue de là-haut et j'ai vu de loin plein de boules partout ici. Et en fait, on avait le bébé qui avait 6 mois et on l'a fichu dans la poussette. En plus, il faisait froid ce matin-là. On l'a fichu dans la poussette, on l'a enroulé dans 15 couvertures. On l'a planté au milieu, on lui a dit « Écoute, tu restes là parce que papa et maman, ils vont essayer de ramasser les escargots. » Et donc là, pendant des heures et des heures, avec des seaux, on a ramassé et on les a remis là.
Vous avez des coupures d'électricité?
Ouais, très bonne question. Eh ben, on court. On court après les escargots. Alors, ça arrive régulièrement, en plus. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, on a très souvent des micro-coupures la nuit. On l'entend, on a un appareil dans le salon qui nous permet d'entendre quand on a une coupure et ça me réveille. Et donc, dans ces cas-là, je viens voir si ça n'a pas duré trop longtemps. Mais quand il y a des coupures d'électricité, en fait, il faut être là. Et puis, il faut ramasser tous ceux qui se sauvent et les remettre à l'intérieur au fur et à mesure. Voilà, ouais.
C'est des micros.
Donc, on a beaucoup de micro-coupures la nuit. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et après, on en a quand il y a un orage, par exemple. Là, voilà. J'adore l'orage, moi. J'ai la première à me foutre dehors pour regarder les orages. Mais par contre, ça m'inquiète toujours dans le sens où quand il y a des coupures d'électricité, parce que les escargots adorent l'orage aussi. Et donc, du coup... Ah ouais, ils adorent. Et puis, la chute de la pression atmosphérique. L'orage génère une chute brutale de pression atmosphérique à un moment donné dans l'orage. Et les escargots adorent ça. Donc après, là, ils sortent à fond, quoi. Donc moi, je viens ici et je fais le tour. Je fais le tour. Et puis je ramasse ce qui s'en va. C'est un boulot énorme l'été, le ramassage de fugitifs.
Vous avez des vols ou... Parce que j'ai eu un ami apiculteur qui s'est fait voler des ruches.
Ouais.
Je trouve ça... Et je me dis, est-ce que vous n'êtes pas aussi...
Si, nous, on est la cible des vols. Alors, pas l'été, hein, les gens sont pas cons. Ils viennent pas les ramasser quand il y a du boulot. Ouais. Ils viennent les ramasser. En fait, ils pillent les congélateurs l'hiver. Ah ouais. Et j'ai un confrère, là, quelques semaines de Noël, on a vu passer un message dans le réseau de producteurs. Il s'est fait vider les énormes congélateurs, là, vider.
Ah ouais.
Vider. Des milliers d'euros de préjudice et on peut rien faire. Les gens qui connaissent un peu volent les escargots. Ouais. Ouais. Et là, ils sont prêts à être cuisinés, c'est du pain béni. Quoi. Donc,
tout le boulot est fait.
Ouais. Ouais. Donc, et la difficulté en escargot, c'est que c'est pas une filière structurée, on doit tout faire nous-mêmes et il n'existe pas d'assurance spécifique. Alors là, j'irai pas m'avancer, peut-être que dans le cas du contenu des congélateurs, ça doit être assuré. Mais par exemple, un agriculteur lambda, quand il a de la grêle qui vient hacher ses betteraves, eh bien, ça lui est indemnisé. Nous, on n'a pas d'assurance climatique. Donc l'année où on a tout perdu à cause de la canicule, il n'y avait pas d'assurance. L'année où on s'est pris les inondations, donc c'était l'année d'après, il n'y a pas d'assurance. L'été dernier, on a eu des grosses inondations. Ici, le village a été inondé à cause des pluies, il n'y a pas d'assurance. Voilà. Donc en fait, on se débrouille. C'est un métier qui est extrêmement difficile. Vraiment, il y a plein de raisons pour que ce soit difficile dans l'élevage d'escargots. Il n'y a pas beaucoup de connaissances techniques sur l'escargot et on se débrouille un peu comme on peut et on fait un peu tous les métiers tout seul. Voilà. C'est très intéressant, mais parfois ça peut être aussi un peu isolant, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas on peut se sentir seul. Voilà.
Il y a beaucoup d'éleveurs d'escargots justement dans la région.
Dans la région, à ma connaissance, on était 14. On est deux en bio, je crois. Il y en a un. Je me demande s'il n'y en a pas un du côté de Dunkerque en bio et un du côté de la Seine-Maritime, mais on n'est pas énormément quoi.
Quels produits faites-vous avec les escargots ?
Alors, avec les escargots, on fait tout ce qui est produits frais et produits en conserve. Donc en produits frais, c'est les produits qu'on vend le mieux, ce que les gens apprécient le plus. C'est des assiettes d'escargots. Donc c'est une petite assiette dans laquelle on va trouver 12 biscuits. Et dans les biscuits, il y a du beurre d'escargot, donc du beurre avec de l'ail et du persil, et des petits escargots dedans. Voilà. Ça, c'est notre produit phare, on va dire. Et après, on fait d'autres produits en conserve, comme des pâtés à l'escargot, des mousses d'escargot, champignons à la crème. On fait aussi des escargots au vin blanc, des escargots fumés au bois de hêtre et des escargots que, après, les mamans et les mamies peuvent recuisiner si elles veulent. Le produit que je vends le plus, c'est un complément alimentaire pour l'arthrose, en fait. Voilà, à base de bave d'escargot et de bourgeons de plantes. Ça marche vraiment très bien en termes de cosmétiques, mais aussi en termes de compléments alimentaires. J'ai eu la demande en fait de certains de mes clients qui ne souhaitent pas manger d'escargot, mais qui voulaient trouver ces produits-là. Et donc du coup, je me suis mise à travailler avec Mademoiselle Agathe pour les revendre pour mes clients qui en ont besoin.
Dans la médecine, hein, c'est vrai que quand j'en ai parlé aux collègues, ils me parlaient du sirop assez connu en...
Ah oui, l'hélicidine.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait, rien que dans le titre, et j'avais jamais fait attention,
c'est
et l'hélicidine, en fait, rien que dans le titre, c'était noté. Et en fait, ah si, si, il y a aussi apparemment de la bave d'escargot là-dedans. Quoi.
Oui, oui, là-dedans. Et puis après, c'est la bave d'escargot, on s'en sert aussi pour traiter les grands brûlés. Ou, voilà. En fait, les propriétés réparatrices de la bave d'escargot sont très utilisées en médecine, ouais.
Vous êtes plus dans l'idée de cuisiner les escargots, etc. Mais finalement, la bave, c'est dans des... Donc c'est très spécifique et l'exploitation n'est pas forcément la même, alors ?
Non, pas du tout. Quand on fait de la bave d'escargot, c'est vraiment... on utilise l'escargot, vraiment, on l'exploite que pour sa bave. Et du coup, c'est d'autres techniques. C'est des techniques de ramassage, de conditionnement de la bave. C'est un autre métier complètement, quoi. Puis après, il faut être aussi expert en produits cosmétiques, quoi. Savoir comment utiliser cette bave, puisqu'on ne l'utilise pas brute. Voilà.
Ah, et puis même en termes de ramassage, quoi. Déjà, oui, ramasser des escargots, ça va être bien sportif, mais ramasser une bave d'escargots, ça va être bien sportif aussi.
Oui, bon, il faut ramasser les escargots et ensuite les faire baver. Donc on va les gratouiller, les chatouiller à la main pour que... Enfin, eux, c'est comme ça qu'ils font, hein. Ils chatouillent les escargots à la main, en fait, pour obtenir cette bave qu'ils vont récolter. Donc c'est hyper minutieux et on en récolte très peu.
Où vendez-vous les escargots ?
Alors, je vends les escargots principalement maintenant à la ferme. Avant, je bougeais beaucoup plus que ça, mais pour différentes raisons personnelles, on a choisi maintenant de les vendre davantage à la ferme. Donc on a un tout micro-magasin là-haut, où on vend nos produits alimentaires, aussi les produits cosmétiques. Après, en période hivernale, donc octobre, novembre, décembre, je fais le marché d'Arras le samedi matin. Ensuite, je fais beaucoup les marchés de Noël de producteurs. pas les marchés de Noël standards, je ne les fais plus. Je le dis parce que j'ai beaucoup de sollicitations et je les refuse. Ce n'est pas un produit qui fonctionne forcément très bien sur les marchés de Noël traditionnels. Donc on fait les marchés de Noël de producteurs. Donc je fais par exemple le marché de Noël de Chérizy. Je fais le marché de Noël que j'organise moi-même ici à Hénin. D'autres marchés de Noël dans la Somme, mais toujours chez des producteurs. On fait ceux au Serre de Rémy. On fait l'abbaye de Vaucelles aussi depuis 3 ans maintenant. Voilà, on reste dans un secteur géographique très proche de la ferme. Vaucelles, c'est le plus loin qu'on aille. Mais toujours dans des manifestations de producteurs. Voilà. Et majoritairement, donc le premier endroit où vous pourrez venir en chercher toute l'année, c'est la ferme. Tant qu'il y en a. Après, quand j'en ai plus en stock, on ferme.
Et est-ce que vous avez des restaurants que vous fournissez, des choses comme ça, des chefs cuisiniers peut-être qui cuisinent vos escargots?
Oui, je vais dire, là, je me ressemble de plus en plus sur la vente à la ferme, qui est pas forcément le créneau que j'avais choisi au début, mais qui est celui avec lequel, finalement, on a trouvé le mieux notre public. Mais oui, on travaille avec quelques restaurants dans le secteur.
C'était la rencontre avec une éleveuse d'escargots à Hénin-sur-Cogel, près d'Arras, Myriam Grouzel, qui a créé la Maison du Nombre d'Or où elle vend ses escargots et ses produits dérivés. L'interview a été réalisée par les jeunes de l'IME, l'Institut Médico-Éducatif d'Arras. Retrouvez plus d'informations sur cet élevage d'escargots sur maisondunombredor.fr. La puce à l'oreille, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour continuer à parler de votre région. À bientôt.